Philippe Steinmann, Vengeance d'une impératrice. À Rome, au Palatin, en l'an 760 depuis la fondation de la ville, se tenait la conversation suivante. « Je ne peux accepter ce que tu me demandes, tu exagères. Mon pauvre Octave Auguste, tu es vieux, tu me dis ça d'une voix mal assurée. » Tu ne te rends pas compte des proportions que prend cette triste affaire. Je m'appelle Livia Drusilla et je ne tolérerai pas que ma personne soit visée, et par un n'importe qui. Les tribunaux vont manifester non seulement leur étonnement, mais encore plus montrer des réticences. Outre que le pont Euxin, c'est pas comme on dit en général la porte à côté. Le voyage sera plus que dangereux et je n'ai pas envie de t'apprendre que le bateau a coulé. Il a été pris par une tempête ou pillé par des pirates phéniciens. Tu sais que ces gens nous en veulent depuis des siècles. Ils tiennent absolument à garder la maîtrise des mers, de notre mer et des autres. C'est pourquoi j'hésite à suivre tes exigences. Peux-tu comprendre ça? Toute relégation d'un citoyen de valeur, aimer des gens et surtout des femmes, va passer pour une lutte soudaine contre une liberté. Pas une liberté politique, non. Bon, sur cela, je reste intraitable. L'Empire d'abord. Mais dans le cas que tu soulèves, la chose passera pour un règlement de compte à titre privé. Déjà que beaucoup de familles bavardent sur notre dos. Oui, à titre privé. Je peux comprendre que tu hésites. Mais comprendre n'est pas forcément être en accord avec ton talent, avec ta clémence. Devenu légendaire auprès du peuple. Car dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, il en va de la moindre morale publique à laquelle j'essaie depuis longtemps de te rendre sensible. Tu tergiverses tout le temps. Tu me dis que les choses ne sont pas simples, tant pis. Et à mon idée s'ajoute que je suis l'objet personnel d'une risée qui ne fait pas tort à moi seul, mais rejaillit sur toi, donc sur l'Empire. C'est inévitable. Autant je t'ai prêché cette clémence à l'égard de gens peu dangereux, autant aujourd'hui je la critique parce qu'elle ne se justifie pas. Il y a des moments où il faut savoir trancher dans le vif. Torquatus, un grand général du passé, a même fait exécuter son fils qui n'avait pas obéi aux ordres. Mais maintenant, ce n'est pas un fait de famille, car après tout, les chevaliers ne sont que des chevaliers. Ils ne sortent que de la plèbe ancestrale, soit par l'argent, soit pour avoir su plaire au Sénat. N'oublie pas que si tu es un Julius, et par adoption, mon cher, moi je descends des Claudii. Livia en ligne directe, et les Livii ne sont pas n'importe qui. Je suis de l'ordre sénatorial. Ma chérie, je crois que tu sors du chemin. Il ne s'agit pas de savoir à quel ordre nous nous adressons. Chevaliers ou sénateurs. Ces derniers sont eux à l'abri de l'ordre politique et font ce qu'ils veulent sans que je puisse intervenir. D'ailleurs, ils la soutiennent et je n'en porte que mieux. Non, ce que je ne veux pas, c'est passer pour un vieil homme, que je suis, je le sais. Un vieil homme, dis-je, qui suit aveuglément les caprices de sa femme et... Des caprices, moi ? M'oses-tu penser ce que tu viens de qualifier quand je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu prennes conscience de la gravité du fait? Ah, Cornelia, mère des Grecs, pourquoi as-tu cédé devant le Sénat quand il s'est agi de donner aux femmes des responsabilités civiles? La vie en aurait été changée. Des caprices, mais mon pauvre ami, mon pauvre mari, il serait temps que tu te reprennes. Que tu saches que les caprices sont nos phares à vous, les hommes, avec vos bagarres de gamins, d'adolescents mal éduqués. Que vous lancez des guerres pour savoir qui gagnera. Vous jouez entre vous à la toupie et au dé, qui t'a mené à la mort des milliers de soldats, ici ou à l'autre bout de l'univers. Mais des caprices, mais tu plaisantes. Bon, tu veux ce que tu veux. Il faudra donc que je cède. Sache en tout cas que si j'obtempère, si je satisfais ton désir à la limite de l'acceptable, c'est avec mille regrets. Tu me contrains, Je te le dis, je te le répète. Allez, rompons là, je veux faire ma sieste, car tu me fatigues avec toutes ces discutailleries. Tu tournes autour de ce que j'appelle une babiole sans conséquence. À tout à l'heure. Ce soir, tu te seras peut-être calmé, enfin, je le souhaite. Qu'il n'y a pas crime. Une erreur, oui, une erreur. Non, non, je ne te romps pas. Tu ne vois là-dedans qu'une erreur. Et puis, Octave Auguste a même peur que le bateau coule, qu'il soit pris par les pirates. Eh bien, moi, je dis que s'il en est ainsi, tant pis. À t'entendre, on dirait jusqu'à croire que ce bateau emporterait un de tes meilleurs amis, si tu en as. On te craint, on fait semblant de te porter de l'amitié. Dans cette affaire, j'ai maintenant l'impression que tu me caches quelque chose. S'il n'est pas de tes amis, il est bien quelque chose pour toi. Et tu te gardes de me l'avouer. Mais quand je songe au bateau, j'ai l'expérience. Tu ne sais pas ce que sont nos bateaux. J'ai assez voyagé sur ces engins vers l'Asie, l'Égypte, la Crète. Les retours mouvementés, les tempêtes qui menacent de renverser la coque, les changements. Les hommes, imagine que tu embarques à Brundisium, d'abord pour la Grèce. Faut attendre que le temps s'y prête, que la marée de l'Adriatique parte vers le sud, que le vent aille dans le bon sens. 2 jours et 2 nuits de mer, on approche d'Ithaque. Faut contourner le Péloponnèse, arriver au Pirée. Et là-bas, escale. Passer le gréement en inspection, des voiles à recoudre, des rameurs engagés, car les premiers sont morts de fatigue. Encore épuisés, on repart. Faut passer le détroit de l'Euripe, longer la côte jusqu'à Thessalonique. Si Neptune ne nous a pas fait suer les coups qu'il prépare souvent lorsqu'Amphitrite est en mal d'enfant, disent les marins. Et dans la mer Égée, il y a les pirates grecs qui ne font pas de cadeaux aux Romains. Et puis après, c'est Byzance, où les Grecs sont aussi les patrons. On est rendu de lassitude. Et tu veux faire aller encore plus loin, ma chère amie, ton désir de l'envoyer là-bas relève de la folie, ou mieux, de te faire périr d'une manière ou d'une autre. Car s'il arrive, ce sera un miracle, dont Dieu ne plaise. Tu vois, c'est bien de tes bons amis. Non! Ce que j'ai dit tout à l'heure de lui, c'est un homme de valeur. Il l'a amplement prouvé par des œuvres magnifiques. Mécène ne tarissait pas d'éloges à son endroit. Tu ne peux le nier. Et toi-même le reconnaissais. Et puis, il y a eu cette malheureuse histoire. Tu t'en blesses alors que tu devrais en rire. Oui, en rire. Passer l'éponge. Retourner à ta vie glorieuse et paisible. Il ne t'a fait aucun mal à ce point. Mais calme-toi. Vois l'événement comme une sorte d'accident, idiot, certes, mais sans que tu en sois atteinte. Bon, je ne me fais plus d'illusions. Je ne compte pour rien. Tu n'as qu'à le dire carrément. Moi, je ne reviens pas sur mon exigence, c'est tout. Allez, va faire ta sieste. Je verrai bien ce que tu décideras. Mais je sens qu'un orage risque d'éclater entre nous. Je dis. Octave Auguste venait d'atteindre ses 70 ans. Il avait beaucoup vieilli, marchait avec une canne, dormait souvent, se montrait de moins en moins en public. En âge, l'impératrice Livia Drusilla le suivait de quelque 5 années. Elle avait gardé une prestance, une beauté, une vivacité intellectuelle fort rare dans la Rome de cette époque, au point que beaucoup voyaient en elle non plus l'impératrice, mais l'empereur en personne. Outre cela, un sens aigu de tradition romaine conservatrice dans l'esprit étriqué des dames de l'ordre sénatorial. La matrone dirige le foyer, éduque les enfants à la religion officielle, l'art et pénates d'abord, passe ses journées à garder la maison, à filer la laine, veillée au respect scrupuleux de l'économie domestique, mène les serviteurs à la baguette, choisit les invités de la Sénat dans le triclinium, déteste la critique et le rire au-delà du bienséant, la négligence vestimentaire. Une matrone est pudique, sérieuse, se tient assise dans son fauteuil d'osier. Elle a le coup d'œil sévère, surveille son mari, de près ou de loin. La tradition remonte à ces Sabines qui ont importé à Rome la rudesse de très ancien temps. C'était Livie, elle avait beaucoup aimé les arts, en particulier les écrivains qu'elle lisait, les invitait à des récitations de leurs œuvres. Elle avait comblé Virgile d'honneur et d'argent, flatté Horace, Propère, Ovide, Tibulle, Gallus, cette pléiade de génies dont parfois la servilité contribuait à la grandeur non seulement de l'Empire, mais surtout d'Octave et de la sienne. Et pourtant, Virgile avait osé une remarque très sulfureuse parmi ces Romains bourrés de superstitions. Heureux celui qui a pu connaître l'origine de la nature, qui a foulé aux pieds toutes les craintes, le destin inexorable et le vacarme que fait un Achéron qui ne rend pas ses proies. Et pourtant, comme Octave, Livie avait eu jusque-là une vie bouleversée par de nombreux deuils, des déceptions, fait face à des haines, des jalousies, des bassesses, des trahisons, failli même être assassinée. De son premier mariage, elle avait conservé un fils, le futur héritier Tibère, dont l'éducation n'avait pas été facile. Garçon très indépendant, violent, doué, fougueux, le plus souvent imprévisible. Elle avait développé sa culture, surveillé ses amis, en avait fait un militaire de grande classe. Le plus pénible pour elle fut l'inconduite des filles de la famille. Des garces qu'Octave devait punir sévèrement. Car la famille d'Octave était riche et cette situation amène vite à des abus. Avec l'argent, on se croit tout permis et la tradition en est balayée. Raison qui avait poussé Livia Drusilla à sévir, sinon à exiger une vaste réforme des mœurs, avec l'agrément d'Octave. Elle avait exigé un arrêt de ces divorces multiples qui désintégraient la société. Il fallait reprendre en main une situation qui avait dégénéré dès l'assassinat de Jules César. L'ordre sénatorial perdait lui aussi ses valeurs fondamentales, ce qui entraînait la dégradation des autres ordres, une montée en puissance des gens de la plèbe. On ne comptait plus les scandales, les fortunes soudaines, l'immoralité montante, un assistanat qui conduisait à ne plus voir que du pain et des jeux. Les œuvres littéraires commençaient à en vivre, à exploiter l'ambiance, à choisir des sujets sulfureux pour les dénoncer ou en rire. Julie, la fille aînée d'Octave et de sa première épouse, Scribonia, avait été surprise et dénoncée à son père comme organisant des parties fines où elle participait à des danses orientales au milieu de festins de bougres ivres-morts. On en profitait pour y critiquer vertement le pouvoir. De jeunes esclaves pratiquaient des rencontres que la plus simple morale ne pouvait tolérer. Des femmes connues s'y prostituaient ouvertement, au vu et au su de leurs époux. On s'y empiffrait à qui mieux mieux. Vulgarité, grossièreté, enfin, tout y régnait allègrement. Octave avait fermé les yeux plusieurs fois. Livie en fut outrée et demanda à l'empereur de ne plus jamais accepter à l'avenir de tels comportements, en particulier de sa propre fille. Quand le bruit s'en répandit, le poète Publius Ovidius Naso avait commis l'erreur de recevoir souvent chez lui ladite Julie avec la bande des noceurs. Octave en fut agacé. Une femme de l'ordre sénatorial chez un chevalier, non! Le poète avait une place privilégiée dans le public. Avec Julie chez lui, il faisait preuve d'une imprudence élémentaire, selon des amis sûrs et influents comme Aurelius Cotta, son vieux copain Titus Gadius, qui avait vu là une sorte de provocation. Le bon pauvre vieux, recevoir Julie chez toi, mais tu es fou! Le couple impérial doit voir ça comme une déclaration de guerre. Bon, s'amuser, pas un crime. Ah, comme tu veux, mon cher ami, mais ton attitude sera considérée comme un complot, une négation ouverte de ce que veut Octave pour le redressement moral. Déjà que tu te permets des relations interdites avec une prêtresse d'Isis. Bon, mais tu te cherches des ennemis. Pas un crime, d'accord. Mais comment peux-tu savoir de quelle manière ta gentillesse sera interprétée? Et tu vas pas te mêler des affaires d'une famille à la tête du pouvoir. Julie est belle, drôle, moqueuse, sympathique. Mais c'est pas un motif pour trop en faire. Car là, tu en fais trop. Livy n'aime pas cette fille d'Octave. Tu risques ainsi de perdre l'admiration qu'elle t'a portée jusqu'ici. Ouais, mais Julie est une femme très sensible à ma poésie. Je m'amuse à lui donner le nom grec de Corinne, et ça la ravit. Je lui fais des déclamations qu'il apporte sur les Lycons, parmi les muses. Et comme elle m'a demandé si elle m'inspirait, vous pensez bien que j'ai abondé. Bon, lui dit Cotta, je constate que tu es d'une naïveté qui me confond. Je me fiche de savoir si elle se prend avec toi comme une autre muse. La fille de l'empereur chez toi, alors que son père est en rogne contre elle. Mais c'est une manière de te faire condamner à je ne sais quoi de pire. Puisqu'il le faut. Oui, il le faut. Et dans l'urgence. L'urgence, tu entends? Cours avec ta prêtresse, garde ta Fabia et c'est tout. Encore, si Fabia supporte tes imbécilités, tes joujoux d'enfant gâté. Mon avenir est sombre, sache-le. Plus de Julie chez Ovide. Pire maintenant. C'était la seconde Julie, fille de la première et donc petite fille d'Octave. 20 ans, superbe. Oh, ce n'était plus pour de la poésie. On coucha. Fabia ne protesta pas trop, mais cette fois le danger devint réel. Pour l'instant, le poète échappait à la vindicte de l'empereur parce qu'il avait des soutiens solides et que Livy ne s'énervait pas puisque la chose ne la touchait pas directement. Il est certain que l'auteur mettait en pratique son art d'aimer. Avec cette Julie II, on enchaînait de nouvelles fêtes, des réceptions. La fille de sa mère avait ce qu'on appellerait du tempérament. Octave se fâcha. Un amant de Julie II, Décimus Silanus, reçut un avis de disgrâce et prit les devants. De lui-même, il partit en exil. Pour Ovide, rien. Ainsi, notre poète se sentit libre. Sa célébrité, ses œuvres le protégeaient. Il le croyait, menait une vie agitée. Octave ferma les yeux, encore. Après tout, le poète passait pour coureur, mais ne commettait rien hors la loi. Comme les hommes riches de son époque, il brûlait la chandelle par les deux bouts. C'était son droit. Fabia, sa femme, reconnaissant la personnalité de son mari, elle supportait. Les maris sont volages, bien les femmes aussi. Et puis leurs affaires tourneront. Ils auront de la fortune, l'essentiel est là. D'ailleurs, Fabia ne rangeait même pas, prenait part quelquefois à des dîners où l'on profitait pour casser du sel sur le dos du régime. On discutait, on critiquait cet Octavien, dont le seul talent avait été de se faire adopter par le grand Jules César. Oui, il s'est battu, a vaincu Marc-Antoine, réduit l'Égypte en province romaine, ce qui n'est pas rien. Cette raison ne justifiait pas tout le reste. Il a profité à son seul compte de la mort de Marcus Agrippa, cet ami fidèle qu'il avait aidé de son génie. Et au lieu de travailler, il perdait son temps au jeu auquel il consacrait plus de la moitié de ses jours. Il est souffreteux, crachote, espionne, épie, s'entoure de gardes bizarres. La chance a fait qu'il a eu vent de conjuration et les condamnations à mort ne lui font pas peur. Un vieil aigri. Avec ça, là, il vit, n'est jamais loin et veille à son propre grain. Sans lui, elle n'est plus rien. Il le sait, mais il l'écoute, car la vieille a du nez. Dans ces discussions politiques, on poussait à tout va. Un nouveau riche du Quirinal fréquentait les jardins de Salluste. Pas d'admiration pour cette nouvelle Rome de marbre après la brique. Octavien, oh, tout le monde sait que le sang rougit ses mains. Combien de têtes n'a-t-il pas fait tomber? Comme son vieux tonton adopteur, il pleurait sur les cadavres de ses victimes, ses adversaires vaincus. Jules César avait rapproché la tête et le tronc de Pompée sur la plage d'Alexandrie, pleuré et demandé des excuses aux mânes du défunt. À bientôt, l'ami. Octavien, il pleure sur le corps de Marc-Antoine, il pleure plus fort encore que sur la dépouille de Cléopâtre. Celle-là, il n'a pas pu la mettre dans son lit. Il emmènera la gamine de cette reine, on ne sait pas pourquoi en faire, car il n'hésite pas à exploiter les enfants. Les aristocrates, vous pensez bien, il aime les gamines. Livy lui en fournit. Applaudissements au milieu des ripailles. Non seulement chez Ovide, mais on entendait les mêmes attaques à Milan, à Padoue, dans le golfe de Naples. Dans ces réunions à teinte révolutionnaire, il n'était pas rare de rencontrer la fille d'Auguste, celle qui avait fréquenté assidûment Ovide. Elle y complotait fort contre Livy, sa marâtre qu'elle détestait au plus haut point jusqu'à la traiter de vraie maquerelle. Et que sous ces faux dehors de femmes sages et apparemment réservées, elle organisait elle aussi des rencontres suspectes. Elle jouait les pieux arts de moralisatrice et trompait allègrement son époux. Elle battait ses serviteurs, les torturait, aimait le sang et s'en barbouillait le visage au cirque, vieille gourgandine. Que n'a-t-elle pas magouillé pour faire adopter son fils Tibère? Par un appétit scandaleux du pouvoir. La fortune des Clodii, sa propre famille, elle l'arrondit chaque fois qu'une bonne affaire se présente et multiplie ainsi ses ramifications dans tout l'Empire. Tibère en héritera. Elle et lui ont de la santé. Seul compte l'argent dans une société corrompue où la consommation se développe forcément chez les détenteurs du pouvoir. Ceux qui ont droit à la parole. On joue une forme de libéralisme qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Le système va dans ce sens, agrandir la pieuvre de l'impératrice financière. Livy est une femme de tête. Certes, au Palatin, elle file la laine de manière ostensible. Elle donne le change à qui veut bien la croire. Mais elle se tient cachée derrière un rideau. Elle écoute ce qui se dit dans le conseil officiel d'Octave et de ses ministres. Elle se prépare des architectes, des organisateurs de sacrifices, des spectacles, des marchés juteux. Mettre la main en secret chez les trafiquants de toupes de toile. Huile, blé d'Égypte, vin d'Italie, marbrier du Trampantelique. Procès. Elle a l'œil et la truffe qui furette. Le peuple n'y voit goutte, mais des bruits courent sur elle. On ne dit rien, mais on n'en pense pas moins. Octave est manipulé. Si par malheur on cherche à lui mettre des bâtons dans les roues, on est condamné. La décapitation, l'exil, les galères, la servitude. C'est pendant ces temps et ces propos de table que, sous les conseils de Julie, Ovide composait un long poème dont le sujet consisterait à faire vibrer dans l'esprit des femmes cette libération manquée à cause de la mère des Gracques il y avait plus de 100 ans. Et pour que la femme se libère du joug des vieilles traditions, Ovide allait chercher dans toute la mythologie les exemples nombreux de ces femmes qui ont des idées, qui n'hésitent pas à chercher des amants. Peu importait de tromper tel ou tel mari. L'essentiel était de trouver le bonheur dans l'amour, la frivolité, le fard, le sang de l'élégance, la provocation des hommes, les minauderies. Si le mari est souvent absent, parmi les plus anciennes, Léda n'a pas rejeté les avances de Jupiter. Clytemnestre a pris Égiste pour amant. Peu importe l'issue, la vie est si courte, pas de temps à perdre. Quelques cheveux blancs, on soignera ça par une coiffure inimitable. On apprendra à rire, à bien articuler le latin pour séduire ceux qui ont de la fortune. On se fait répudier, oh, quelle affaire! Dans une réception, on saura montrer sa cuisse, charmée par desseins irrésistibles, raconter avec une science redoutable l'aventure d'une telle qui s'en tire à bon compte. Les histoires graveleuses ont du succès. Les matrones pudibondes le sont par la perte de leur beauté. Sous la plume d'Ovide, la femme devient l'objet de désir, fait tout pour y parvenir. Choquée, oh, la liberté mérite bien ça. Et comme Octave aimait les femmes, il ne pouvait que souscrire. D'ailleurs, lui en a chuchoté les passages coquins, dont il a beaucoup ri, et qui lui ont donné des recettes à ne pas négliger. Livy était fort belle, mais le temps était passé avec sa cruauté. Au théâtre, tel histrion déchaînait les cris des filles, non moins excitées que leur mère. C'est là qu'il fallait aller à la chasse. De fort belles adolescentes refusaient de rester à la maison, erraient sous les portiques, au forum, et y cherchaient les bonnes occasions. On tisse de plus en plus des voiles transparents qui révèlent la perfection des formes. L'ancienne pourpre n'a plus cours que chez les sénateurs. Règnent maintenant les safrans, les bleus de Perse, ces verres d'eau qui font pâlir un vieux jurisconsulte et le laissent sans voix, ces rouges flamboyants épousent des lignes féminines à faire mourir. Fille du mariage, aimée, et le reste n'est rien. Or, un matin, notre poète dictait un distique élégiaque lorsqu'un prétorien lui présenta un ave sur un ton neutre. César Auguste, mon général couvert de gloire, attend la présence dans sa maison du Palatin. Le coup sembla violent et fit d'abord trembler l'invité. Octave avait dû sûrement entendre chuchoter des bruits à propos de Julie, dont la réputation n'était plus à faire. Ou alors, de quoi s'agissait-il? Ovide n'avait rien enfreint à quelque loi ancienne ou récente. Il fallait se rendre à la convocation. Prends un siège, Ovidius Naso. Prends et, sur toute chose, observe exactement la loi que je t'impose. Ne pas m'interrompre. Voilà. Avec tes amis, je veux dire les tiens, mais aussi ceux de ma fille, tu t'es mis dans la tête d'écrire une nouvelle œuvre qui aurait pour titre L'art d'aimer. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui, la poésie m'a touché, m'a plu, m'a fait rire, m'a enchanté, parfois. Tu sais que Livy a de toi une haute idée. Tu sais tout cela, dis-je. Seulement, j'ai entendu que dans cet art, tu as l'intention de donner force recettes sur les pratiques de l'amour. Or, le monde aurait-il besoin de discours au sujet de l'amour? L'amour n'est pas un art. Platon et Xénophon ont eu divers dialogues dans deux Le Banquet, très connus, mais ils n'ont jamais cherché à convaincre qui ou qu'est-ce sur les techniques et les pratiques. Ils ont fait parler leurs contemporains sur l'amour en général, tel que le concevaient les meilleurs d'entre les Athéniens. Ils étaient et sont restés philosophes. Toi, non. On m'a dit que tu y traitais de méthodes multiples pour dégoter quelques filles ou même une matrone afin d'y voir un bon coup sans lendemain. Mais César, je suis surpris de... Oh, tu tiens mal le silence que je t'avais imposé. Allez, je précise. Tu donnerais des leçons efficaces à nos chers latins de tout l'Empire. Comment séduire, comment faire l'amour, comment tromper, lâcher, reprendre, changer de partenaire. Tu pousserais les recettes jusqu'à l'habillement, le fard, la manière d'aborder par des propos fallacieux, consoler telle épouse dans l'ennui, comment susurrer à des oreilles jeunes ou vieilles, mais curieuses. Parle, parle, il est temps. César, oui, je suis fort surpris que tu en saches autant sur mes brouillons, car je n'ai rien rendu public à ce jour. Tout ce que j'écris n'entre que dans un projet. Oh, sois sûr que je n'ai aucune intention de mal faire. Entre amis et avec ta fille Julie, nous avons beaucoup discuté des problèmes relatifs à l'amour, quoique sans philosophie, je le reconnais. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je sais de Julie me déplaît fort. Car Rome, ma propre fille, passe pour une dévergondée, me scandalise. En l'absence de Tibère, elle organise des orgies, des beuveries. Mais enfin, on en parle, et cela n'est pas bien. Cette réputation rejaillit sur mon pouvoir. La nuit, vous sortez ivre de vos parties fines, chantez, réveillez les quartiers, et avec ça, la fille de César fait partie de la bande. Une fois, je passe, mais la chose tend à se répéter. Alors je dis non. Mais il n'en est rien, César Auguste. Ta fille est femme sensible, elle a le goût des belles choses. Certes, elle aime le luxe, la haute couture, les sujets les plus doux l'intéressent. Elle aime l'amour, ne s'en cache pas. Et sous l'influence de ton si cher Agrippa, elle a acquis une immense culture, et comme mère. Mais justement, elle est mère. Matrone, elle devrait donner l'exemple parfait de la retenue de la morale sociale, voire familiale. Avec elle, on en est loin, ce que je crois savoir et comprendre. Livy m'en a fait souvent la remarque, et je crois bien que, sans tarder, je vais prendre des dispositions. Il faudra qu'elle prenne la décision de devenir exemplaire. Ma gloire en dépend. À mon décès, épouse de Tibère, elle devient impératrice. Imagine un peu le résultat. Et si c'est elle en outre qui te donne ces idées que je considère comme très contestables, je risque de me fâcher aussi contre ton œuvre et de prendre encore des décisions, mais à ton égard. Réfléchis. Tu sais que ma colère est redoutable. Pour l'instant, je ferme les yeux et te demande de venir me lire un peu de ton livre afin que j'en juge moi-même. Si moi, je dis bien moi, je n'y trouve rien de répréhensible, peut-être n'en sera-t-il pas de même de la part de Livy, dont j'écoute avis et conseils. Et si de son côté, elle n'y voit rien à redire, tu pourras continuer. Prends soin de toi, j'ai dit. Ovide rapporta la conversation à Tudicanus, qui recommanda la prudence. Cependant, ajouta Tudicanus, il t'a dit qu'il t'attendait de ta part une lecture de ton art d'aimer. Dans ces conditions, tu lui proposeras un ensemble de morceaux habilement choisis, afin de lui démontrer que ton œuvre n'a rien de dangereux pour la moralité des matrones. Que seuls sont concernés les hommes, ayant bien sûr tous les droits de courir l'aventure, voire de tromper madame. Mais quand tu t'adresses à des femmes, ce ne sont que des filles perdues, des prostituées, de rares matrones, de mauvaise vie, sans respect de la morale publique. Finalement, les lois de César Octave Auguste ne visent pas ce genre de femmes. Celles-là n'ont plus rien à perdre dans leur vie de misère. Elles cherchent un bonhomme friqué, une situation sociale, un avenir assuré. Ben, je veux bien tout ce que tu dis, mais César ne sera pas forcément dupe de ce truc. Il pourra me rétorquer que ce sont justement des morceaux choisis, et qu'il doit y avoir autre chose dont certains parlent et dont moi je ne parle pas devant lui. Sous ces aspects débonnaires, Octave est un malin, qui sait entrevoir les ruses. Les ruses, oh, pff, il en est spécialiste. Oui, c'est aussi mon opinion, mais il prend beaucoup d'âge. Il a passé 60 ans. Perd un tantinet de sa finesse, se fait guider par la vieille, qui l'entoure d'autres malins. Et si elle est présente à tes lectures, bien qu'elle soit au courant de tous les ragots, elle restera sous le charme de ton style. De toute façon, je te répète que tu dois choisir ce qui frappera César par le côté anodin de ton texte, par des leçons d'élégance, de correction, par des références sérieuses aux traditions de la mythologie. Car c'est sur elles que ce qu'il appelle lui-même tes méthodes. Oh, je t'apprendrai. Dans les écoles, nos pédagogues fondent leurs leçons de morale sur la mythologie en question. Il en sera charmé, il la connaît. Il parle grec aussi bien que toi et moi. Devant la beauté de tes allusions, son âge le rendra encore plus sensible au contenu de tes discours choisis. Alors sa volonté de moralisation perdra de sa force. Accompagne tes lectures de gestes, de prononciations séduisantes, de détournements subtils par un timbre non pas habile mais irrésistible. Tu en es capable, je le sais fort bien. Souvent tu as déclamé devant moi. Oh, tu serais plus malin que Octave, ma parole. N'empêche que je redoute ce genre de démonstration. Pour un peu qu'il veuille interpréter à sa manière, je peux avoir fait ce choix qui déplaise, sans que j'en saisisse les motifs. Oui, ton propos est convenablement convaincant, mais. Car au Palatin, j'ai aucune chance d'échapper à un revirement soudain, surtout si la vieille est là. Je la sais fort intelligente, cauteleuse, sournoise. Oui, pourra-t-elle dire, j'aime ces envolées de haute poésie, mais ici nous sommes entre nous. Tant que nous y sommes, tout cela est fort beau. Mais une publication donne lieu à des commentaires divers, inattendus, des déformations du texte, à des fins que chaque auditeur ou lecteur peut tirer à soi. Ben voilà mon Tudicanus qui me fait hésiter. Tant pis, il t'a dit qu'il voulait t'entendre par lui-même, non? Alors, vas-y. Il a déjà loué de tes œuvres, haut et fort. Ta Médée, tes amours, les héroïdes. C'est un encouragement, que je sache. À peine Tudicanus avait-il quitté son vieux copain Ovide, qu'un grand bruit se faisait dans la rue. Crieurs, esclaves porteurs, litières de luxe, chiens. Le tout s'arrêta devant la porte. Petit escabeau, c'était la belle Julie qui arrivait bon train, passait le dallage au Kawekanem, grande tenue, beau drapé orange qui sort de chez Foulon. Alors, mon grand poète, quoi de neuf dans ton art d'aimer? La dernière fois, je vibrais à ton apologie de l'infidélité, de la liberté, de l'amour. Oh non, s'il te plaît. Avant-hier, ton père m'a sermonné. J'ai résisté autant que je le pouvais pour lui montrer qu'il s'agissait de ragots. J'en profite pour te faire savoir qu'il n'est pas loin de sévir contre toi. Quoi, tu plaisantes? Non, ma jolie dame. Tu sens le soufre au Palatin. Figure-toi que ton père a des espions partout. En sous-entendu, Livie ne te porte pas dans son cœur et je suis certain qu'elle titille au César Auguste au sujet de ta conduite. Je m'en fous, à un point que tu ne saurais imaginer. C'est une vieille salope qui ne s'est jamais privée d'aventure dès que mon père était absent. Dès qu'elle a plaqué son Claudius Néron pour mon père, qu'elle l'a contraint à divorcer de ma mère, Scribonia. Tu vois un peu le genre de bonne femme. La sage Livia Drusilla, tu parles. C'est elle qui est derrière ce foin contre moi. Sache-le bien. Ils ont voulu que j'épouse le Tibère. Elle a forcé son Octave à l'adopter comme son propre fils. Elle est la risée de Rome, qui n'apprécie rien de ses opérations sournoises. Oui, peut-être, mais je te répète que ton père fulmine. Il n'est pas du tout content. Il est capable de t'envoyer à perpète comme image malsaine de lui-même, dont il dit n'avoir pas besoin. Non, 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 je ne plaisante pas. Pleure-moi, sans blague. Tu vas pas croire à ça? Je te sais assez intelligent pour comprendre que ce sont des menaces vagues. D'ailleurs, quand je venais au Palatin en tenue légère, il me l'a reproché. J'ai bien voulu obtempérer. Je suis revenu saucissonné du bas en haut, une vraie bédouine de la Haute Égypte. Mais ça n'ira pas plus loin. Je suis sa fille, point. Tu vas pas me chercher encore des poux dans la tête. Le Tiberius Claudius, machin truc, m'empoisonne l'existence. Je veux être libre, libre, libre. Tu m'entends, ma vie m'appartient. Je fais ma prière aux dieux, je respecte mes larves, cela me suffit et doit suffire. Pour le reste, c'est mon affaire. Alors passons, mon poète chéri, et récite-moi tes derniers distiques. Je t'écoute, allez, fais vibrer ta vieille copine. Non, non, ma belle Julie, César va savoir que tu reviens chez moi. Va convoquer ma femme, ma chère Fabia, et va la chapitrer elle aussi. Rien que ta présence ici passera pour une provocation. J'en tremble d'avance quand je serai devant lui, car il m'a invité à lui faire des récitations de mon art. Et au lieu de m'entendre dans le calme, oh, je le vois déjà en colère. Mais je ne te savais pas si froussard. Mais décidément, tu ne mesures pas les circonstances. Ton père est en train de concocter des lois contre le divorce pour, dit-il, moraliser non seulement les Romains, mais tous les Latins où qu'ils habitent. Bon, je sais que la vieille est derrière lui, mais il en est là. Je n'y peux rien. C'est lui le patron de tout l'Empire. Et s'il dit Dixi, on n'a plus qu'à s'incliner, comme le Sénat. Non. Tu ne sens pas qu'un mot malheureux peut avoir des conséquences désastreuses. Il va me reprocher de te recevoir. Bien, monsieur le soumis, je ne t'embarrasse plus. Et que les dieux te gardent, moi je me débrouille. Je ne comprends pas pourquoi tu es agressive. Monsieur ne comprend pas. Mais tu passes ton temps à m'annoncer un gentil avenir, des punitions de mon père, des horreurs. Et comment veux-tu que j'encaisse tes amabilités? J'ai l'impression que tu as la mémoire courte en ce qui me concerne. Comment je t'ai aidé, recommandé autour de moi, choisi pour toi des sujets de poèmes. Non, allez, j'arrête, pauvre imbécile que j'ai été. Maintenant, je pense que tu comprends. Mais tu dis n'importe quoi. Tout simplement, je te rapporte des propos que ton père a tenus devant moi. Te mets en garde, rien de plus. Mais si tu te mets en tête de me protéger de mon père, tu n'as aucune idée de ma relation avec lui. Mon père, c'est mon père. Avec la moindre affection paternelle, il y a des violences qu'il ne peut manifester contre moi. Et puis que veux-tu qu'il me fasse? Qu'il me tue, qu'il m'exile, qu'il me fasse suivre en permanence par des prétoriens? Tu rêves. Aux yeux de César, la fille de César est la fille de César. Elle ne risque rien. Bien, ma belle Julie, je vois que mon discours est en hélas vain. Mon père est près de Pompéi. J'y cours, mettre les choses au point. Le lendemain de cet entretien houleux, Julie ne redouta pas les chaleurs puissantes de septembre et partit. Elle voulait rejoindre son père à Nole, où il avait fait construire une vaste villa. Dans les terres de Campanie, il trouvait un climat plus agréable que sur les bords du golfe de Naples, avec ses étés orageux, lourds à supporter pour son tempérament, somme toute fragile. Outre que Livy adorait cette région calme, riche en fruits, très paysanne, gorgée de fromage et de bon vin, elle détestait une Rome bruyante, populeuse, sale, où puaient les cloaques, pleines d'étrangers, de marchés, de jeux du cirque, ces foules incontrôlables, souvent prêtes à faire des révolutions, des bagarres, des amusements imbéciles. D'ailleurs, Octave en pensait autant, et fuyait à la première occasion cette urbs tentaculaire. En effet, depuis la fin de la guerre civile, Rome était devenue un centre international de séduction, d'abord grâce à ces jeux que seule offrait cette ville immense. S'y était ensuite développée une misère endémique, le vol, les cambriolages, les campements dans l'approche banlieue. Il avait fallu augmenter le nombre des prétoriens, mais ils ne pouvaient être partout. Ils étaient parfois agressés, voire assassinés. Les tribunaux étaient submergés. Avec ça, une administration nouvelle, voulue par le pouvoir et le Sénat, ne facilitait pas les choses. Chaque matin, on ramassait des morts de faim et le Champ de Mars était devenu un centre embouteillé de crémation. La Rome de marbre qu'Auguste désirait en remplacement de la Rome de briques, c'était un vœu bien réalisé par Agrippa, mais seulement dans quelques beaux quartiers. Cette Rome, dont le bruit fatiguait Livy, était aussi et surtout une ville sans cesse en construction. Il s'agissait de monuments à dresser, soit à reconstruire après incendie, soit encore de maisons à transformer, à rebâtir pour un meilleur confort. Scie stridente des tailleurs de pierre, élévation d'échafaudages, forgerons et leurs enclumes, non seulement pour les grosses pièces de métal, mais en plus pour des milliers de clous. Cris des maçons et charpentiers, cris des colporteurs et des petits artisans dans les rues. Dans ce grouillement, dormir ou faire la sieste était devenu un sport de haut niveau. Au Palatin même, le bruit ne cessait pas. Dès le matin, la clientèle d'Octave bavardait dans les cours, jacassait, faisait de la politique, allait, venait, pendant que les serviteurs s'affairaient en nettoyage ou en cuisine, que les molosses aboyaient pour n'importe quoi. Un véritable enfer, et pour le supporter, il fallait un tempérament plus que solide. Or, Octave et Livy prenaient de l'âge et voulaient un minimum de repos, et Nolé le leur donnait. Julie avait emprunté la voix latine plus récente, moins chaotique que la déjà vieille voix agrippéenne. Cette voix dite latine n'était pas plus latine que la voix appienne, puisque tous deux traversaient le Latium. Quand on partait pour le golfe de Naples, on prenait d'abord la voie appienne jusqu'à une patte d'oie avant Tusculum, par où passait cette nouvelle voie latine, mieux construite, plus rapide pour les recreidae, petites voitures confortables à deux chevaux. Julie aimait passer par le pays des Herniques, encaissé entre les Apennins et les monts Albains. Cette route était très fréquentée par les riches Romains qui faisaient beaucoup construire à Baïle, à Sorrente, à Pompéi et Herculanum, non loin du Vésuve célèbre pour ses vignes et ses cultures. Et puis Julie passerait par Capoue, dont les délices avaient perdu Hannibal. Était-ce un signe avant-coureur de quelques ennuis qu'elle redoutait? À proximité de Nolé, elle hésita, se demandant si sa démarche valait la peine, mais à la réflexion, elle se prit à avoir confiance dans l'affection de son père. Elle envoya se faire annoncer, car elle savait combien Octave détestait les surprises. Elle entra d'abord dans les jardins frais, entretenus, luxueux, et un prétorien de garde prévint César Auguste de l'arrivée de sa fille. Octave arriva lentement, se tint à distance. L'accueil fut assez froid. Alors donc, te voilà. Soudain, ma fille s'intéresse à son père. La chose est si rare que tu dois avoir quelque chose à me demander. Et par exemple, de fermer encore et encore les yeux sur une de tes dernières frasques. Car figure-toi que je vais bientôt dresser une ardoise dans ma chambre. Oui, je sais, Tibère est absent, il ne peut ajuster tes robes à tes retours de fête. Il empêche que les propos que l'on tient sur toi finissent par me lasser. Mais enfin, père, des copains, d'accord, de bons moments dans la vie, d'accord. Des libertés, d'accord. Il est vrai que dans ma jeunesse et mon âge mûr, je me suis donné du bon temps. La chose est dite trois fois d'accord. Mais tu vas me rétorquer que si ton père s'est offert parfois du bon temps, je dis bien parfois, c'est pas une raison qu'une matrone comme toi puisse tout se permettre. Oui, que tu le veuilles ou non, tu es matrone puisque tu as eu déjà quatre enfants. Or, une matrone est une femme exemplaire. Exemplaire, tu m'entends? Que réponds-tu? Parce qu'à cette heure, on fait plus que jaser sur ton compte. D'un geste bref, il invita Julie à le suivre jusqu'à son péristyle, où dominait un grand jet d'eau parmi nymphéas en fleurs. Il faisait mine de s'appuyer sur une canne en ivoire pour se donner un air de vieillesse avancée. 60 ans est un âge qui compte, même pour un empereur droit dans ses bottes. Octave s'assit sur son canapé garni de coussins, Julie sur un simple tabouret. Père, il est vrai, je te rappelle cependant que tu ne m'as jamais demandé mon avis quand il s'est agi de me marier. C'était tantôt celui-ci, tantôt celui-là, et pour finir, le fils de la Livie dont je n'ai rien à faire. Ce type me fatigue par ses plaintes, ses reproches, enfin, quand il est là. Monsieur est en campagne, monsieur est général, s'occupe de ses troupes, va, vient, c'est tout, trop où. Déjà que j'ai pas le moindre sentiment pour ce Claudius que ta Livie a voulu absolument me faire épouser pour ses intérêts personnels. Oui, je le trompe parce qu'il m'empoisonne l'existence. Il me suffit de rencontrer un homme sympathique et intelligent pour que j'aime le fréquenter, et de près. Si ce monsieur Tibère veut bien changer de vie et de caractère, je verrai à changer à mon tour. Tu peux comprendre cela? J'en ai par-dessus la tête que ta Livie dicte ta conduite à mon égard et te charge de me donner des leçons. La sage matrone dont elle cherche à présenter l'image n'autorise pas à se mêler de mes affaires. Je suis ta fille, tu entends, pas la sienne. Car elle est derrière tout ce tracas. Ce fut un silence lourd et prolongé. Auguste se leva pour aller s'asseoir sur sa chaise curule, agrémentée d'un dossier. Cette chaise curule lui donnait tout à coup un air de consul fier de son pouvoir. Un temps, il mesura sa réplique qui allait le transformer en magistrat. Julie, ma fille, certes, je suis ton père, mais tu oublies que je suis l'empereur. Et si de nos jours un père quelconque autorise sa fille à prendre des libertés, c'est son choix, bien que je le désapprouve. Une femme doit tout à son époux, qu'elle l'ait choisi ou non. L'infidélité est faute grave, elle mérite la sévérité des anciens temps. Père, cesse de me faire rire. Et à t'entendre, on dirait que parle ici le vieux Caton le Censeur et ses propos sur la culture des choux. Ah, décidément, j'ai un père qui radote. Un père empereur, oui, bien sûr, mais un père qui veut que le monde entier pense et fasse comme lui. Moi, mes fesses sont à moi et à personne d'autre. J'en use comme je l'entends. Avec tes maris, j'ai eu des enfants légitimes. J'ai donné, donc je suis libre. C'est d'ailleurs l'avis de ton poète bien-aimé, Ovidius Naso, qui prône la liberté en amour. J'ai assez parlé de ça avec lui et en a écrit des vers sublimes. La société d'aujourd'hui n'est plus celle d'un passé révolu. Aimer doit être un art, quelque chose de nouveau et non une obligation qui mène au dégoût. D'ailleurs, toi-même as bien détourné Livide, son mari Claudius Nero. Légitimé, non. Tu as employé la force pour arriver à tes fins, monsieur l'empereur. Un nouveau silence, encore plus lourd. Le regard d'Octave s'assombrit. Bien, j'ai entendu ton discours. J'y mets fin. Oh, le bien sera très court, écoute-moi. Madame Julie, fille aînée de Caius Octavius César Augustus, fils adopté de Julius César, à compter de ce jour, je vous renie comme ma fille et vous interdis à l'avenir de me parler, de me voir. Mon autorité sur vous en est arrivée là. Votre grossièreté à l'égard de Livie, ta Livie, dites-vous, est carrément insupportable. Malheur au vaincu, j'ai dit. Mais mon père. César Auguste se leva, appela deux prétoriens. Emmenez la dame Julie, mon ex-fille, vous savez. Vous attendrez mes ordres pour avoir la suite à donner. Les ordres furent d'aller arrêter à Rome Scribonia, mère de Julie, et de les conduire tous deux en exil, à vie, dans l'île de Pandateria. Ovide était alors en voyage pour aller visiter César Auguste à Nole, et lui lire des extraits de son art d'aimer comme prévu. Je pouvais savoir quelle stupeur s'était répandue dans Rome dès qu'on apprit l'arrestation de Scribonia et qu'Octave avait exilé Julie. Il commençait donc à frapper même la famille. Vite le bruit courut que César avait donc violemment réagi contre l'immoralité de sa propre fille. Ainsi donc démarrait cette nouvelle politique de mettre fin aux excès des femmes, aux infidélités, aux divorces qui se multipliaient. Tout le monde entrevit l'action en sous-main de Livie. Or, c'est le jour même où il allait arriver à Nole chez Octave, Auguste, qu'Ovide apprit la nouvelle dont il fut réellement atterré. Le rendez-vous était fixé, il fallait rencontrer Octave sans avoir l'air choqué, sans avoir l'air de savoir. Pour Ovide, Julie avait toujours été une amie, une sorte de protection, une muse, une garantie d'être reçue au Palatin. Il cacha son angoisse et sa peur d'être à son tour arrêté comme complice de ce dont Octave accusait Julie. Oh, enfin, tu viens me distraire par la lecture de ton poème, lui dit Octave avec un sourire qu'Ovide crut voir ambigu. Grâce à toi, je vais pouvoir passer à autre chose qu'à ma douleur. À ta douleur, César Auguste. Oh, le mot est fort et ma poésie ne pourra guère te soulager. Elle n'est qu'une distraction. C'est vrai, mon cher poète. Je crois que le temps seul m'offrira le ou les médicaments efficaces. Car vois-tu, il y a 5 jours, j'ai cru avoir le plaisir de recevoir ma fille Julie. Mais cette rencontre a très vite mal tourné. Je voulais la persuader de changer de conduite à l'égard de Tibère, entre autres. Mais elle a fait dévier la discussion en une accusation contre moi et contre Livie. Elle me devenait insupportable. Tu sais que je veux une vie exemplaire pour les matrones romaines. Julie était beaucoup trop loin de ce compte et j'ai pris la décision de l'exiler avec sa mère, qui me semble n'avoir rien fait de son côté pour la corriger. J'ai voulu être moi-même un exemple de haute tenue morale devant le peuple comme devant le Sénat. Et pourtant, aujourd'hui, je souffre, Julie, ma fille, cette petite qui est née quand j'avais 24 ans, si belle, si joyeuse, en pleine santé. Je la revois traîner à 4 pattes, apprendre à marcher. Sans cesse dans mes bras affectueuses, riant à toutes les occasions dans nos jeux puérils. Sa mère et moi avons veillé de près à son éducation, quoique j'ai souvent été absent à cause de mes campagnes militaires. Chaque fois que nous nous retrouvions, ce n'était que belle gaieté, folle histoire que nous nous racontions. Elle me faisait des cadeaux enfantins, des dessins étranges ou savants. Elle allait jusqu'à m'apprendre les prières. Chaque fois que je me remémore ces moments, mes larmes coulent. Et voilà qu'aujourd'hui, je n'ai plus que sévir. Mon poète, je suis malheureux au-delà de ce que tu peux imaginer. Ma fille doit me haïr. Que devrais-je faire? Ta poésie pourra me guider, peut-être. César, crois-moi, tu te dois de pardonner. Julie, ta seule fille. Non, il n'en est pas question. Si elle retournait à Rome, elle ferait moi et de Livie encore elle des gorges chaudes. Ma décision est sans appel. Si on me critique, tant pis. En son temps, ton Quatus a fait exécuter son fils qui avait désobéi aux ordres. Je ne fais pas exécuter ma fille. L'exil suffit, et c'est d'ailleurs mon affection à son égard qui sauve sa tête. Tromper Tibère ostensiblement est à mes yeux une manière de mépriser ma politique. C'est inadmissible, elle m'a ridiculisé. Comprends-tu, cher poète? Mais avec toi, César, elle s'est crue libre. Octave se leva et se mit à marcher autour de son péristyle. Il penchait la tête et donnait l'allure d'un homme tourmenté par l'hésitation. Il revint vers Ovide et le regarda comme décidé à bien mener les choses et mettre les choses au point. Libre, mais une femme n'est pas libre. Elle a trahi ses obligations de matrone et l'obéissance à son père. Elle est allée au-devant du tolérable. J'en ai assez de ce procès qui dégénère dans les familles en batailles interminables. Les tribunaux me renvoient des cas pour lesquels je devrais trancher. Je suis fatigué. Je voudrais trouver un peu de repos, finir ma vie dans le calme et non pas dans les courbatures. J'ai dit dans une lettre au Sénat, et voilà-t-il pas que ma fille se taille une réputation qui me démoralise, qui gâche mes journées? Déjà, j'ai beaucoup pardonné, n'en puis plus. Avec mon vieil ami Agrippa, elle a eu 4 enfants. Alors, que lui faut-il, Dieu immortel, pour encore cavaler, se saouler de plaisir? Elle passe pour une gourgandine. Non, non, et non, non, non. Et quelle image de mère devant ses enfants? Mesures-tu cela? Il est certain, César Auguste, que je ne suis pas à ta place et que je n'ai pas à tenir compte de l'image universelle que tu as, toi, dans tout l'Empire. Moi-même suis père, j'en sais la responsabilité, mais. Bon, non, pas de mais, mon cher poète. N'allons pas discuter indéfiniment des devoirs paternels et filiaux. Je te connais doux et tendre. Chacun de nous a son tempérament et sa manière de voir une éducation, une orientation de vie. Moi, je ne puis supporter que dans ma famille règne le désordre. Le désordre, tu entends? La fille de César ne doit pas être soupçonnée. C'est dit. Tout à l'heure, je vais réunir mes conseillers pour travailler. Nous dînerons ensemble, toi et moi, avec Livy. Et demain, tu me feras ces lectures que j'attends avec impatience. Cet entretien inquiéta fort Ovide. Il avait apporté plein de feuillets, surtout comportant le premier livre de son art d'aimer. Pour celui-là, il n'avait pas trop de difficultés à choisir des passages qui plairaient à César. Dans le cas du livre deuxième, la chose serait plus délicate, car par endroit, l'infidélité tient une bonne place. Le troisième livre était à peine commencé, il n'en avait rien apporté à Nolles. Octave était un lève-tôt. Pendant que son barbier le bichonnait, il envoya chercher son poète qui vint avec ses liasses de premier livre. Allô, mon cher Publius, charme-moi. Que ma matinée soit aussi ensoleillée que la campagne. Envoûte-moi par ton style élégiaque. Parfois tes vers sont quelque peu tortueux, mais je les aime. Si certains m'échappent, tu les reliras en une déclamation plus lente, veux-tu? Antoche, debout, Ovide commença par les occasions favorables aux aventures amoureuses, la manière de reconnaître l'objet du désir dans les rues de Rome, les promenades, les édifices publics, au forum, au théâtre, au cirque, dans une foule qui suit un triomphe, sinon à table, chez des amis complices. C'est là que le vin y prépare les cœurs, alors naît la joie, disparaissant la douleur, le souci, les rides de notre front. Les âmes s'ouvrent en une franchise bien rare à notre époque. Comme tu as raison, s'écria Octave. Jadis, j'ai connu de ces moments qu'on n'oublie pas. N'est-ce pas, ma si chère Livia Drusilla? Te souviens-tu de notre si grand instant de grâce chez ton Clodius? Car Livy s'était glissée dans cet entretien avec une moue boudeuse. Tu me sembles guère enthousiaste à écouter si beaux vers. Dis-moi. Mon beau vers, sans conteste, répliqua Livy, pour le contenu. Allons, Publius, continue, j'écoute. Ovide reprit, citant fort ce conquête extraite de la mythologie, tous les transports inspirés par la passion, sans en déçure les tragédies. Il exaltait la littérature amoureuse, l'élégance, les compliments, les promesses, les larmes, une tenue parfaite, que le séducteur ait une connaissance avertie des désirs féminins, des refus provocateurs, des déclarations souvent répétées, Des billets doux dans un style enflammé. Octave sourit et applaudit. Eh bien, dit-il, ce soir à la fraîche, tu me liras ton second livre, car un bon premier me plaît. Tu viens de montrer comment l'homme doit séduire. Je suis curieux de savoir ce que tu dis des femmes. Ouais, interrompit Livy, je m'attends au pire. Allons, ma belle, ajouta Auguste. Ces temps-ci, au milieu de mes tracas, j'ai besoin de rire. Dans le triclinium, vers les 5 heures, on se retrouva pour la cena qu'avaient préparée plusieurs cuisiniers napolitains. Octave en aimait les plats particulièrement épicés, ses porcs solaires rôtis à la broche, ses tourtes surprises remplies de farces des plus délicates, souvent faites avec des oiseaux marinés dans des vins comme le falerne qu'il faut couper d'eau à cause de leur épaisseur, ces vins dont Horace était grand connaisseur. Il avait conquis Octave, dont les goûts étaient assez portés et sur l'ordinaire, voire sur les bières rustiques, dont l'amertume ne plaisait pas à des palais raffinés. On commença par des olives, des samoussas farcis et du vin raisiné dans la tradition grecque. On se raconta des histoires béotiennes, dont la lourdeur plaisait tant aux Athéniens moqueurs, toujours prêts à ridiculiser la sottise ou la maladresse. Ovide en connaissait de fort lestes qui déridèrent Livie, laquelle faisait semblant de fuir ses plaisanteries graveleuses, mais en réclamait parfois. D'abord, étendu sur son lit à l'étrusque, Octave riait si fort qu'il fut obligé de s'asseoir pour ne pas s'étouffer. Arrivèrent ensuite les tourtes napolitaines garnies de caille, puis des aiguillettes de sarcelles sur feuilles de chou. Et comme la perfection de ce plat avait entraîné le silence, Octave intervint. Alors, mon poète, dis-moi les trouvailles de ton second livre. Debout entre deux torchères, car la nuit s'étendait sur Nole, Ovide choisit tous ces passages où l'amant se doit de plaire en toutes circonstances à l'objet aimé, à être agréable, persévérant, en admiration perpétuelle, à savoir autant de grec que de latin pour raconter des histoires comme on le fait pour calmer et endormir les enfants. Être surtout dévoué serviteur, bien entretenir la maison, faire les courses et, si on est deux, porter les paquets. Prends-en de la graine, dit Livy, avec un regard évocateur en direction de César Auguste qui opina du bonnet. Tu as toute autorisation pour publier ton art, cher poète. Alors, retourne à Rome dès demain et mets-toi au travail. Ovide avait prudemment tu les passages où il excuse l'infidélité. Mais il se sentit les coups des franches pour son livre 3 et la publication. Elle demanderait du temps, de nombreux copistes qu'il faudrait payer et surveiller à cause des nombreuses fautes, commander quantité de papier de qualité venu d'Égypte. Une entreprise longue et coûteuse, mais qui lui apporterait un surcroît de célébrité. Il se remit au travail pour achever enfin cette œuvre à laquelle il tenait. Il devait amender, composer, déplacer, refaire, corriger. Il passait jours et nuits, car sa réputation exigeait la perfection. Or, le distique élégiaque, composé d'un hexamètre et d'un pentamètre, n'était pas d'une écriture facile, même si la grammaire latine autorise un ordre assez compliqué dans la rédaction. Il faut être passé maître dans le rythme et la scansion d'un second vers dont la forme est stricte. Depuis longtemps, et bien d'autres poèmes, Ovide avait choisi ce style très à la mode, hérité des poètes grecs appelés bucoliques ou encore élégiaques. L'Alexandrin Callimaque avait excellé dans ce genre et inspiré les contemporains de Cicéron et de César. Pourtant, ces deux premiers livres de l'art d'aimer étaient axés sur la séduction des femmes par les hommes. Autant ce livre 3 donnait aux femmes les recettes pour séduire à leur tour. Il y peindrait d'abord les redoutables séductrices de la mythologie, Élissa cherchant à détourner Énée de son voyage en Italie, Vénus trahit Vulcain pour les bras de Mars. Jadis à Rome régnait la simplicité rustique, aujourd'hui la splendeur de l'or. La femme doit donc les meilleurs soins à son visage, des vêtements de grand prix, la coiffure irrésistible que lui conseillera son miroir. La couleur des robes, elle devra choisir les reflets de la mer, un azur sans nuages, le plus pur safran. Aisselles et jambes parfaitement épilées, parfumées, de la cendre fine sur les paupières pour les rendre assassines. Aucune défectuosité physique ne doit paraître, grâce au fond de teint, par la tenue en public, la démarche, le sourire léger et apparemment pudique, la voix douce, le geste harmonieux. La femme doit même apprendre à pleurer, avoir un défaut d'articulation pour charmer les oreilles attentives. Il faut aussi un déhanchement étudié, faire flotter la robe parmi les vents indiscrets. Ah, et puis surtout, savoir toucher de la cithare, chanter les odes amoureuses de l'antique Sappho, réciter propre ses tibules. La jolie femme devra savoir exécuter les meilleurs pas de danse. Elle trouve l'amant par des promenades sous les portiques, car la foule est utile à une jeune beauté. À des funérailles, cheveux défaits et larmes savantes font qu'on trouve souvent un nouvel ami. Douceur et tendresse du regard. Ne pas faire croire qu'on attend un cadeau, mais en accepter avec grâce et reconnaissance, toujours avec discrétion. Laisser croire aux amants qu'ils sont aimés afin de se sentir plus libres, mais cette liberté ne permet pas que dans les festins les femmes s'enivrent. Elle ferait fuir les amants. Le poète acheva ce troisième livre par ce qu'on peut appeler le passage à l'acte, bien qu'il y dise rougir de ses derniers enseignements, mais que les femmes assurent « Ovide a été notre maître ». Dès les premières publications, cet art d'aimer avait emporté un succès fulgurant. On le lisait dans tous les cercles, dans toutes les parties fines, dans les festins. On se pressait de récitations publiques, on applaudissait. Les hommes se donnèrent plus de courage, les femmes dévalisèrent les magasins de vêtements à la dernière mode, et les infidélités commencèrent à courir jusque dans les bonnes maisons. Dans les rues, toutes les conversations abandonnaient la politique et les affaires pour encenser ce poète qui avait osé dire ce que tout le monde pensait. Inévitablement, les discussions en arrivèrent à choisir comme sujet la relation Octave Livy. On se mit à rire du vieux couple dont les intentions affichées couraient sur la restauration de l'antique pudeur. Et comme de bien entendu, ces bruits coururent au palatin. César Auguste avait malgré tout un certain sens de l'humour. Il invita Ovide et lui fit réciter ce livre 3, qui le charma dans un premier temps et n'en distingua pas tout de suite les conséquences éventuelles dans la société. Livy eut une première réaction mitigée pour ne pas créer d'emblée chez Octave un geste de rejet. Elle savait l'admiration qu'il manifestait à son poète. Elle se promit d'avoir avec lui des échanges plus approfondis à propos de passages qui frisaient, selon elle, la provocation. En effet, elle n'était pas encore trop regardante sur les habitudes de cet époux auquel elle acceptait parfois d'offrir de la chair fraîche. On savait qu'elle-même faisait chercher des nymphettes pour son pédophile de mari. Des bruits couraient à Rome sur cet empereur secrètement vicieux. Mais en parlant du texte d'Ovide dans son propre cercle de matrones austères, quelques-unes furent très offusquées et demandèrent à l'impératrice de veiller à une morale élémentaire. Que les hommes s'amusent avec des filles faciles ici ou là, ça pouvait passer. Mais les hommes sont les hommes. Et quand il s'agit d'une libération presque totale de toute femme, mariée ou non, le scandale pouvait prendre des proportions incontrôlables. Entre elles, ces vieilles prunes riaient aussi. Mais que tout Rome et l'Italie fissent des gorges chaudes sur le couple impérial, cela méritait la réprobation au plus haut sommet de l'État, et pour cause. Livy jouait la morale et tenait à ce jeu. Avec son livre III, Ovide brouillait les apparences. Certes, il n'était pas question d'interdire cet art d'aimer, mais il fallait falloir en mesurer la vraie portée. Dans son art, Ovide ne faisait jamais appel ni allusion aux dieux, sinon à Eros Cupidon, dieu volage s'il en est, et dieu de la liberté et de la fidélité. Les dieux officiels de la tradition romaine étaient absents. Pendant toute sa tendre enfance à Sulmone, Ovide avait été élevé dans les vieilles coutumes religieuses de latins animistes et superstitieux. Sa famille sacrifiait aux dieux officiels et publics, aux lares familiaux, aux dieux de la campagne, des arbres, des récoltes. Il ne connaissait pas encore cette foule de dieux étrangers, nouvellement rapportés du monde entier par les soldats et les voyageurs de commerce. La première divinité importée avait été la bonne déesse, Bona Dea, que les matrones honoraient au début de décembre. Son culte était secret et interdit aux hommes. De là, les divers discours tenus sur ce qui se passait dans ces assemblées obscures. On disait y prier, cette divinité censée donner la fécondité, voire une longue durée de vie, ce qui avivait l'espoir de mourir à un âge respectable. Et puis on avait aussi introduit des dieux du monde grec, qui correspondaient parfois à ceux des traditions anciennes. Octave Auguste, en personne, s'était assimilé à Phébus Apollon, auquel il venait de faire construire un temple à côté de chez lui, sur le Palatin. Ce culte était une première manière de diviniser l'empereur vivant. Venu à Rome avec son frère pour y faire des études approfondies, Ovide rencontra cette foule de dieux nouveaux. Chacun avait sa fête et les Romains leur consacraient chaque mois maintes cérémonies. Dans son adolescence, parmi les copains aimant plus le chahut que le travail, Ovide commença à se plus croire beaucoup à ce fatras de rites dont les jeunes ne comprenaient pas grand-chose. Cicéron avait dit que deux aruspices ne pouvaient se regarder sans éclater de rire. Belle raison nouvelle de devenir mécréant. Notre poète s'était consacré à écrire des métamorphoses où l'action des puissances divines passe apparemment pour sérieuse mais douteuse en sous-entendu. Il alla même jusqu'à louer la sagesse de Pythagore pour qui les dieux n'ont aucune influence sur la destinée humaine, où les sacrifices sanglants sont considérés comme barbares et dangereux, comme la consommation d'animaux. Ce pythagorisme affiché était un pavé dans la mare des traditions romaines. Il voulait prendre une nouvelle hygiène de vie. Or, tout ce qui bouleversait les conceptions ancestrales de façon trop voyante donnait flanc à des critiques sévères. Ces désordres éventuels dans les fondements des rituels sociaux et religieux donnaient à Octave, mais surtout à Livy, des inquiétudes pour l'assiette de leur pouvoir. Il fallait donc en revenir une bonne fois à ce que les ancêtres avaient fondé, une morale stricte sans la moindre bavure. Ces nouvelles sociétés secrètes autour de divinités étrangères ou de philosophies suspectes provoquèrent des discussions orageuses au Palatin. Et puis cet art d'aimer rajoutait de l'huile dans les lampes et les torchères. Livy commença à s'en prendre plus souvent à Octave qu'elle considéra comme beaucoup trop tolérant. Outre cela, elle avait appris qu'Ovide fréquentait de près une prêtresse d'Isis, ce qui conduisait à penser qu'il avait de la sympathie pour ce culte. Or, les cultes étrangers allaient de pair avec une négation des valeurs religieuses traditionnelles. Ovide en devint suspect. Et puis il avait une relation d'amitié avec un certain Vitellius, entre autres, gardien du temple d'Isis, seuls autorisés à y pénétrer. En effet, les cultes orientaux étaient presque tous réservés à tel ou tel sexe, et dans ces cas, il était interdit à l'autre sexe et de le pratiquer et de pénétrer dans les temples du dieu ou de la déesse. Cette coutume remontait loin dans l'histoire et même la préhistoire, où les sexes étaient égaux civilement et religieusement. La femme y tenait un rôle capital. Dans la Troie de la guerre célébrée par Homère, Priam règne sur 50 fils, mais c'est Hécube, la reine, qui règne sur 50 filles, et aucun acte ne s'y accomplit sans son avis. Ovide se souvenait du royaume des Amazones et de leur reine Penthésilée, dont les sujettes pratiquaient la polyandrie. Les vieilles traditions romaines s'en séparaient. La femme y était descendante de ces antiques Sabines enlevées par les troupes de Romulus et donc soumise aux ravisseurs. Mais Rome n'était plus la Rome de Romulus. L'arrivée du luxe, du confort, de l'éducation, de l'urbanisme, de l'eau courante avait transformé l'état d'esprit des hommes, des femmes, d'une jeunesse qui rejetait les contraintes de la vieille société. Mais Livie appartenait à cette société dont elle avait reçu l'esprit de soumission. Elle aussi, enlevée par Octave à son premier mari, Claudius Nero, elle avait obtempéré. Si des femmes se rebellaient et exigeaient un autre comportement des hommes, elles n'étaient pas dignes de considération. Ovide disait avoir écrit pour elle, mais Livie n'en était pas vraiment persuadée. Des chapelles pythagoriciennes s'ouvraient ici ou là. On y transmettait l'idée de la métempsycose, que les êtres et les choses se réduisaient à des nombres et ces philosophies très teintées de religion créaient des troubles dans le public. Ovide en éprouvait des sympathies ouvertes et même en louait les valeurs dans son dernier livre des Métamorphoses, critiquant l'atrocité des sacrifices sanglants. L'année suivante, Octave avait invité Ovide au Palatin. Vois-tu dans ton art d'aimer, grande œuvre qui se veut pour tout public, me suis-je aperçu, si ma mémoire est bonne, que les dieux n'ont pas une présence prépondérante, sinon suffisante. Tu sais combien je tiens à la piété de tous mes contemporains, laquelle semble disparaître. Dans nos grands sacrifices officiels, il n'y a plus les foules d'il y a 100 ans et plus, et même moins. Or, l'amour, afin d'être traité dans un livre, devrait se référer très souvent à la prière, à un appel de l'intervention des dieux. Dans ton art d'aimer, il n'y a rien de tout cela, et par conséquent, l'absence de morale. Tu sais aussi que dans notre civilisation, tout mariage est organisé en vue de procréer et non pas de s'amuser dans cette dernière intention. Dans le mariage romain, il y a forcément absence de choix personnel pour les mariés, mais un accord entre les familles pour protéger leurs intérêts. Toi, tu parles de l'amour en liberté, mais je ne saurais tolérer ce genre de conception. Je suis garant d'une société solide reposant sur des traditions, des bases constructives, cela afin de conserver des acquis anciens et d'en maintenir les références. Or, ton œuvre ne va pas dans ce sens, voire m'inquiète. Livie partage cet avis. Certes, César, mais l'amour dont je parle est ce sentiment purement humain dans lequel l'adresse aux dieux n'a guère de place, sinon aucune. Et pourtant, je crois savoir, comme toi, que les fiançailles et mariages se passent toujours sous la condition d'heureux auspices, comme on dit. Donc seulement si les prêtres donnent leur accord aux familles contractantes avec un prêt d'interrogation des dieux. Or, ton livre, jamais, ne fait allusion à ce genre de pratiques anciennes qui ont forgé notre société. Tu sais aussi combien je veux corriger ce laisser-aller du courant. Et de plus en plus de couples divorcent, on se remarie à tout va. Il est vrai, César Auguste, mais mon livre ne concerne ni la bonne société, ni les grandes familles qui ont créé l'Empire, constitué des lois, renforcé des habitudes. Je compose pour l'homme et la femme de la rue, le petit Romain moyen, peu argenté, qui court la bonne aventure et ne se soucie guère de la fidélité. Je n'aurais jamais composé un tel livre si j'avais dû y inclure le respect, l'obéissance de la femme à un mari tout à fait conforme à la loi. Je n'ai voulu traiter que la question de l'amour pour lui-même, sans considération morale ou politique. Eh oui, justement, et c'est cela qui m'agace. Regarde l'œuvre de Tite Live, celle du grand Virgile. Ces historiens et poètes ont voulu, avec mon assentiment, traiter des questions qui concourent à la seule grandeur de Rome. Or, ton art d'aimer ne nous offre que séduction, moyen de détourner l'objet du seul désir à notre profit, chercher des occasions de jeux amoureux sans conséquence. Et dans ton troisième livre, la femme y semble un peu trop facile à mon gré. Les nombreuses copies qui circulent et récitations publiques dans les basiliques ou sur les places provoquent des sentiments de liberté et de rire, alors que tu aurais dû penser au résultat d'une telle désinvolture dans les relations entre hommes et femmes. D'autant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que beaucoup de femmes se promettent de suivre ce que je puis appeler tes conseils. Je reconnais, César, la justesse de ton propos. Cependant, tout le monde sait que ton mariage avec Livia Drusilla a suivi ton divorce d'avec Scribonia. N'est-ce pas plus par amour que par convention entre des familles? Oh, Publius Ovidius Naso, ta remarque mérite. Tu viens ici te mêler de mes affaires personnelles. Je ne peux pas accepter. J'apprécie ta poésie, ton style, la plupart de tes trouvailles littéraires, mais là, tu dépasses les limites, sinon de mon pouvoir souverain, mais en plus de mon comportement moral. Puisque tu en es donc arrivé là, je décide de faire enlever ton œuvre de ma propre bibliothèque à compter de ce jour. J'ai dit. Mais, César Auguste, je te prie de m'excuser et de bien vouloir. Je te répète, j'ai dit. Tu peux disposer. Octave se leva de sa chaise curule, appela deux prétoriens qui vinrent accompagner notre poète vers la sortie, sans plus d'explication. Ovide, atterré par cette vindicte soudaine de l'empereur romain, rentra chez lui et dit tout à son épouse Fabia qu'il y fit une scène violente. Elle avait entendu parler des colères d'Octave et entrevit une catastrophe. Mais tu devrais ne plaider que pour ton œuvre, imbécile. Regarde maintenant dans quelle situation tu nous mets, les tiens et les miens, sans compter que tu n'as pas mesuré des conséquences sur ta personne et sur la mienne. Octave a envoyé à la mort pour moins que ça. Oh, Dieu immortel, je tremble. Mais quel sacrifice ne faudra-t-il pas pour apaiser le courroux d'Auguste? Mais, ma très chère, ce que je lui ai dit, tout le monde le sait. Je ne l'ai accusé de rien. Sa prétention de moraliser les mœurs. Peut-être, mais peu importe, le résultat est là. Ah, nous voilà bien. Un bon conseil, va voir d'urgence Fabius Maximus, très bien placé auprès d'Octave. Fabius Maximus écouta Ovide avec toute l'attention que l'on porte au problème d'un ami de famille et de cœur. Cependant, il se montra très réticent devant une intervention de sa part au palatin. Il calma Ovide, qui lui montrait sa profonde inquiétude. C'est une affaire secondaire, lui dit-il. Le contenu de ton art ne va pas jusqu'à s'en prendre à la politique générale, à la gestion de l'Empire, aux affaires militaires, aux problèmes de l'alimentation de Rome. Tu n'as fait aucune allusion aux complications de sa famille ou à Livie. Et pourtant, c'est là que le bât blesse. Tu sais qu'elle se mêle de tout, et je me demande si ce n'est pas elle qui se trouve derrière les chicaneries qu'il t'a faites à propos de ton livre 3 sur le comportement des femmes. Elle joue la matrone puritaine et moralisante. Pour elle, tu es allé trop loin. Bon, mais ce n'est pas elle qui aurait décidé d'enlever mon livre de la bibliothèque du Palatin. Pas directement, certes, mais sur l'oreiller, comme aurait dit Horace, elle a bien pu influencer le jugement d'Octave, et lui ne cherche jamais autre chose que de lui plaire. Ton art est interdit au Palatin, oui, mais le reste de ton œuvre y a toujours sa place. Raison pour laquelle je risque d'énerver encore plus l'empereur si je viens te défendre, présenter des excuses au sujet de ta remarque qu'il a brusquement fâchée. Et songe que ta relation connue avec une prêtresse d'Isis n'est pas un peu là-dessous. D'accord, mais c'est quand même ma liberté. Relation. Bien sûr, mais une telle relation ne plaide pas en ta faveur. Toutes ces religions étrangères sont assez mal vues en haut lieu. On en parle aussi, et cela n'est pas bien. Tu sais que Livy fréquente parfois le temple de cette déesse. Mais Livy, c'est Livy. Elle a donc tous les droits, et toi, non. Oui, c'est vrai que par hasard, je l'y ai vue à poil, pratiquant les rites. Oui, mais ce que tu as vu, tu aurais dû le garder pour toi. Or, tu en as parlé à des amis qui se sont fait le plaisir d'en parler à leur tour, à droite et à gauche, pour en rire et dire que la vieille avait de drôles de comportements. Et comme de bien entendu, la nouvelle est sûrement arrivée au Palatin. Rappelle-toi que la femme de César est la femme de César. C'est elle qui est derrière cette interdiction. Reste très discret, s'il te plaît. Quant à l'art d'aimer, il continuait de se répandre à travers toute l'Italie.